financement.
OK, 10h32 minutes. On va revenir là-dessus. On en parlait tantôt. Hier, le verdict est tombé en fin d'après-midi. Hier, c'était très, très, très attendu. Des délibérations quand même relativement courtes pour un procès aussi complexe. Donc, procès de Derek Chauvin, reconnu coupable hier sur toute la ligne en lien avec le décès de George Floyd, survenu au printemps 2020. Tout le monde se rappelle de cette histoire-là. Beaucoup de questions là-dessus, entre autres, sur l'implication des élus. Joe Biden, le président, s'en est mêlé hier alors que le jury est encore séquestré en disant que la preuve était accablante. Est-ce que Derek Chauvin a eu droit à un procès juste et équitable dans tout le contexte et toute la pression sociale qui existait aux États-Unis et les risques de débordement hier? On va en parler avec notre expert en politique américaine qui a suivi ça avec beaucoup d'attention. Évidemment, il est chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand. Raphaël Jacob qui est avec nous. Salut Raph!
Salut monsieur!
Ça a été relativement rapide hier quand même. Moi, j'ai été un peu surpris que ça sorte hier, Raphaël.
Ça a été très rapide. Ouais. Écoute, ça va avoir pris moins de 24 heures au total. Que ça inclut là, les heures pendant la nuit. Là, et quand on se limite aux heures de délibération, c'est moins de 10. Mmh. Ça, je te dirais que quand c'est sorti en fin de journée hier, quand on a appris qu'on allait avoir un verdict aussi rapidement que ça, c'était vraiment un signe assez fort que ça allait mal finir pour Chauvin. Parce que ça aurait été excessivement surprenant que en si peu de temps, tous les membres du jury se disent « Ah, ben, savez-vous quoi? On la quitte. » Au contraire. Fait que, écoute, comme on le sait, là, ça a été tellement médiatisé depuis la fin de journée hier, coupable de tous les chefs d'accusation, meurtre au deuxième, meurtre au troisième degré et homicide involontaire. Je le précise, pour ceux qui sont peut-être pas sûrs comment ça fonctionne, parce que ça peut avoir l'air un petit peu contre-intuitif. Homicide involontaire, non seulement c'est différent, mais c'est un petit peu contradictoire avec meurtre. Là. C'est vraiment pas la même chose. Donc, comment ça va fonctionner lorsque la sentence va être prononcée? Et elle ne l'a pas été encore. Elle devrait l'être dans à peu près 2 mois, de ce qu'on en comprend. C'est que le juge va écarter les 2 condamnations les moins graves. Donc, meurtre au troisième degré, on écarte ça. Homicide involontaire, on écarte ça. On garde seulement la condamnation la plus grave, donc meurtre au deuxième degré. Et là, on fixe une sentence par rapport à ça qui pourrait aller, et là, je sais que c'est très, très large comme range, là, mais quelque part, sans doute, entre 10 et 40 ans de prison. Donc, c'est très concevable que M. Chauvin finisse ses jours en prison.
Bon, il y a évidemment la possibilité de faire appel. Peut-être rappeler aux gens pourquoi certains pensent que les avocats d'Eric Chauvin pourraient décider d'aller en appel. Et j'ajoute même un facteur à analyser, Raphaël. Mm-hmm. La brièveté des délibérations, est-ce que ça pourrait pas être même amené par les avocats de la défense comme étant une démonstration que il y avait un jury qui était biaisé, si on veut?
Ouais, ben écoute, je vais aller directement dans le sens de ce que Jérôme disait tantôt, c'est-à-dire que le contexte est assez difficile à évacuer. Tu sais, on se parle souvent lorsque la sélection d'un jury de contamination possible de jury. Là, je veux dire, c'était à toute fin pratique, impossible d'arriver avec un jury composé des pairs de Chauvin qui n'arrivait pas au moins avec un minimum de préconception ou opinion ou émotion même par rapport à George Floyd, par rapport à Derek Chauvin, par rapport au mouvement beaucoup plus large de Black Lives Matter. Bon, fait qu'il y avait ça à la base initialement. Et pendant le procès, tu sais, vous mentionnez tantôt le fait que le président américain avait commenté, ce qui, soit dit en passant, si je peux me permettre l'observation, là, on s'entend-tu que si Donald Trump, dans un contexte moindrement semblable, s'était prononcé sur ce qui devrait être, selon lui, l'issue d'un verdict, d'un procès, pardon, aussi important que ça, ça aurait crié à gauche puis à droite. Tu sais, il y avait quelque chose, je pense, de profondément discutable dans ce que Joe Biden a fait, mais au moins, il l'a fait lorsque le jury était séquestré. Or, il y a d'autres élus, notamment Maxine Waters, une espèce de polémiste de la Chambre des représentants, une élue démocrate, qui est allée essentiellement, je dirais pas menacer, là, mais qui est allée dire que s'il n'y avait pas de verdict de culpabilité contre Chauvin, on devrait rester dans la rue, les manifestants devraient rester dans la rue et devraient augmenter le niveau de confrontation. Fait que tout ça pour dire que c'est pas inconcevable. Je certainement pas vous prédire que Chauvin va être capable de faire renverser ce verdict-là en appel. Ouais. Mais je vous dis ceci, c'est loin d'être inconcevable que son équipe de défense puisse faire valoir dans un procès en appel que non, il n'a pas eu droit complètement à un procès dans lequel le jury justement n'était aucunement contaminé par des considérations extérieures, incluant la possibilité de voir en fait leur propre communauté carrément mise à feu si jamais il devait l'acquitter. Fait qu'il y a cette composante-là qui est très difficile à séparer du fond. Puis le fond de l'histoire, ça reste que je pense que bien des gens, pour des raisons parfaitement légitimes, qui considèrent aujourd'hui Chauvin complètement coupable sur toute la ligne.
C'est ça, mais en même temps, je vois pas comment le procès aurait pu avoir lieu autrement quand tu regardes ça. Tu sais, t'as beau faire le procès à Skowhegan, Maine, là, je veux dire, tout le monde suit ça, là, à Skowhegan. Tu peux le mettre à Seattle, tu peux le mettre à Fort Lauderdale, tu peux le mettre où tu veux. La tension serait restée la même, puis il aurait été impossible de trouver des jurés qui n'ont pas, à un moment donné ou un autre, été influencés par le contexte social.
Écoute, t'aurais voulu faire le procès à Val-d'Or, puis t'aurais pas été capable de trouver quelqu'un qui n'en a pas entendu parler.
Exact. C'était mondial, cette affaire-là. Je parlais de ça avec ma blonde il y a deux jours, puis elle disait, tu sais, ça aurait pris un jury composé de Amish. Où ça aurait été un problème. Est-ce que ça aurait vraiment été rendu là un jury de ses pairs?
Ouais, c'est ça.
Que ça prend à la fois un jury de ses pairs, un jury qui est aucunement contaminé. Dans le contexte actuel, vous le dites, je pense très bien, c'était à toute fin pratique impossible.
Raphaël, est-ce que ce verdict-là vient régler quoi que ce soit? J'ai l'impression que ça met un peu le couvercle sur la marmite, ça vient apaiser certaines tensions qu'on aurait pu avoir, notamment à Minneapolis. Mais en même temps, on voit encore dans les derniers jours d'autres exemples. Là, il y a une jeune de 16 ans qui est abattue par la police dans un incident, il y a quoi, quelques jours de ça. On sent que les tensions sont quand même vives. Donc, est-ce que ce verdict-là règle quoi que ce soit?
Ben, il règle, disons, je pense, là, le risque monumental d'avoir eu des débordements monumentaux, puis pas juste au Minnesota, là, peut-être à la grandeur du pays. Mais tu sais, tu viens d'utiliser une expression, je pense, qui est bonne à réutiliser dans un autre contexte quand tu as dit remettre le couvercle sur la marmite. Il y a plusieurs qui me demandent depuis hier, est-ce que ça va donner une espèce d'élan aux efforts législatifs de réformer les services de police, de réformer la justice criminelle aux États-Unis? Puis ça va peut-être avoir l'air contre-intuitif, mais personnellement, je vous dirais que je pense que c'est l'inverse. Parce que justement, ça risque d'être plus facile pour les gens qui sont plus récalcitrants à voir s'implanter des réformes vraiment de fond, là. Ça risque d'être plus facile pour eux justement de remettre le couvercle sur la marmite en disant, écoutez, le système a fonctionné, l'accusé a été condamné, il va aller pourrir en prison. On n'a pas eu de débordement, il n'y a pas de ville qui est massacrée, qui est incendiée présentement, donc passons à un autre appel. Je pense qu'à l'inverse, si Chauvin avait été acquitté, ou si le jury avait pas été capable de s'entendre de façon unanime, là, ce qui aurait eu peut-être l'effet presque identique là, d'un acquittement, et que justement, il y avait eu des débordements épouvantables, là, la pression politique aurait été, je crois, beaucoup, 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 beaucoup plus forte et beaucoup plus difficile à résister pour réformer, justement, de fond en comble, ou en tout cas, de réformer de façon importante, parce que là, ça aurait été un message facile à faire. Regardez, ça fonctionne pas. Non seulement on a des abus de la sorte, mais quand on a des abus de la sorte, la personne qui est accusée n'est pas condamnée. Alors que là, c'est pas ça qu'on a. Donc, est-ce que le débat va continuer? Oui. Est-ce que ça peut-être mener à des avancées? Espérons-le. Mais je suis pas entièrement convaincu de un et de deux. Et je reviens là-dessus, je sais qu'on en a parlé tantôt, là, mais l'histoire n'est pas terminée. Non seulement Chauvin s'en va peut-être en appel, mais il faut aussi ne pas oublier, et ça, personne n'en parle depuis des mois, il y a trois autres personnes qui sont impliquées là-dedans.
C'est ça qu'on voit sur les images aussi, là, qui sont là.
C'est ça.
Ben oui.
Fait que Chauvin était le seul accusé de meurtre, là, pour des raisons évidentes. Mais la réalité, c'est que ces trois ex-collègues, trois ex-policiers, sont tous également accusés, non pas de meurtre, mais d'avoir été complices de meurtre, qui est quand même pas rien là, pour des policiers. Donc, leur procès, normalement, devrait commencer d'ici l'automne. Donc, c'est encore une fois, cette histoire-là, elle est loin, loin, loin d'être terminée.
Mais le mot-clé hier, je regardais ça sur Twitter, LeBron James, qui est très, très militant aux États-Unis, a tweeté ça hier, c'est « accountability », responsabilité. C'est-à-dire que les policiers, il y a peut-être des policiers aux États-Unis qui se sentaient justifiés parfois d'utiliser trop de force parce que leur travail est difficile, puis il y a des quartiers très, très chauds. Ça semble être ça le mot-clé pour plusieurs hier. Accountability.
Ben, écoute, tu pourrais aussi ajouter à ça justice. Puis là, mettre le contraste entre Derek Chauvin et George Floyd. En ce sens où, dans un système où on est censé avoir la loi et l'ordre, justement, avoir un système de droit, un criminel doit être puni. Mais il doit être puni selon le cadre. Et George Floyd avait peut-être commis un crime, évidemment, ça sera jamais prouvé parce qu'on s'entend qu'il y aura jamais justement eu de procès juste et équitable composé d'un jury de ses pairs. Mais à la limite, si c'était vrai qu'il avait transigé un faux billet de 20$, est-ce qu'il méritait de se faire essentiellement exécuter en public dans la rue? Non. Derek Chauvin a fait quelque chose qui, à la base, était peut-être, là, ça a été confirmé, était criminel. Est-ce qu'il méritait de se faire exécuter? Non, et c'est pas ça qu'il a eu. Il a eu un procès qui a été mené, pour l'avoir justement suivi de très, très près, du début à la fin, qui a été mené de façon essentiellement impeccable dans le contexte, encore une fois, dans le contexte dans lequel ça se passait. Fait que je pense qu'il y a ça aussi à garder en tête. On doit punir les criminels, mais on doit le faire selon justement la loi et l'ordre.
Merci Raphaël, fort intéressant.
Est-ce que vous me laissez un 10 secondes, ben même pas pour parler de ça?
Vas-y.
C'est parce que, tu sais, vous savez comment c'est un grand plaisir pour moi de collaborer avec vous, mais si vous voulez vraiment me faire plaisir, je vous entendais un petit peu plus tôt, puis Joe mentionnait qu'il s'était un jour bleaché les cheveux. Si je pouvais voir une photo de ça, vous avez pas idée comment ça me ferait plaisir.
Ben écoute, Joe, dans sa jeunesse, vivait à Laval. T'étais-tu proche du Carrefour Laval? Non, on fait des farces.
Oui, ben
on
oui, je t'ai pas. On
va fouiller dans ce pota de Laval.
On va sortir ça,
un moment. En échange, je vous donnerai une photo de moi avec des cheveux, tout court.
Salut, Raph.
Marché conclu.
C'était-tu à cause de Jacques Villeneuve ou il y a une couple dans ce temps-là qui a décidé de
écoute,
faire ça?
Non, non, moi, c'est parce que j'étais skater.
Oui.
Quand j'avais 15-16 ans, donc okay. Tout le monde avait les cheveux bleachés. Mais moi, mon père m'avait dit, tant que tu vas rester sous mon toit, puis que tu n'auras pas 18 ans, j'ai le droit de te dire ce que tu n'as pas le droit de faire, puis tu n'arriveras pas ici avec les cheveux blonds. Fait que quand j'ai eu 18 ans, je restais encore chez mes parents, mais ça a comme été un pied de nez de dire, genre, ha! Je vais me faire bleacher les cheveux, c'est ça que je te disais tantôt, je l'ai fait comme en retard, c'était plus à mode, et la brillante idée que j'avais eue, ou que je n'avais pas eue, c'était de me faire bleacher les cheveux de mémoire 4 jours avant la prise de photo pour le renouvellement de mon permis de conduire.
OK, fait que là...
Fait que pendant 50 ans, alors que ça a été une mauvaise idée à 18 ans, j'avais un permis de conduire avec les cheveux bleachés qui sortaient jaune fluo, sa photo du permis de conduire.
Ouais. On aimerait ça voir ça ou pas, là. C'est en option. Peut-être qu'on rirait. Hey, juste pour finir sur George Floyd, je parlais du tweet de LeBron James. Il y a une espèce de controverse aussi que j'ai vu sur Twitter. Là-bas.
Oui.
Sur le tweet des Raiders de Las Vegas. Parce qu'hier, toutes les équipes et toutes les ligues sportives aux États-Unis ont réagi très rapidement avec des tweets, avec des déclarations hier là-dessus. Parce que le monde du sport, vous savez ce qui s'est passé un peu. Il y a eu toutes sortes de manifestations des athlètes professionnels en appui à la cause des droits des minorités aux États-Unis. Puis hier, ils ont tweeté « I can breathe now » avec la date d'hier. Plutôt que, t'sais, vous savez que George Floyd... criait « I can't breathe », donc « Je ne peux pas respirer ». Donc, hier, les Raiders ont tweeté « Je peux maintenant respirer », alors qu'il est décédé. Ça a créé une espèce de ils sont fait reprocher ça un peu sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai liké. C'est drôle, quand ils ont tweeté ça, je l'ai liké hier, ce tweet-là, parce que j'avais compris que c'était comme une espèce de symbole, mais on dirait qu'il y en a qui l'ont comme... Il y en a qui l'ont mal pris, ce tweet-là, hier.
Ce matin, quand Alex nous a envoyé ça, je l'avais pas vu passer. Ma première réaction est une réaction de « ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, OK? »
Ouais.
Tu viens reprendre les derniers mots que George Floyd a dit qui ont été tellement véhiculés pour... Mais là, en même temps, je me suis dit « OK, mais il y a une signification. »
C'est ça.
C'est très, très lourd de sens, mais je pense que où je trace ma ligne, c'est... Si on avait déformé les derniers mots de l'assaillant, mettons, là.
Ouais.
Tu sais, ce que Chauvin aurait dit à Floyd, puis qu'on avait déformé ça, là, j'aurais trouvé ça, là, j'aurais peut-être été mal à l'aise, mais en même temps, je crois pas que ça fasse réagir, mais je suis pas prêt à dire que c'est une faute.
Non, c'est pas une faute. Faut arrêter d'être.
L'intention, elle est bonne.
C'est ça, faut arrêter d'être outré pour tout et n'importe quoi à un moment donné. Je veux dire, c'est une image, c'est une image forte qui porte à réfléchir, puis on dirait que dans ce temps-là, ça. On dirait que dans ce temps-là, ça dérange. Tu sais, il y a beaucoup de rednecks aussi qui suivent la NFL. Faut pas oublier ça, là. Sur le terrain, il y a des minorités, mais dans les estrades, c'est très, 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 très blanc. Je me demande à un moment donné si ça vient pas teinter la réaction de certains après un tweet comme ça.
Ah,
en tout cas, regarde, voilà.
Intéressant.
10h47, vous écoutez Trudeau Landry, 25226 pour nous joindre.
Trudeau Landry, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau. On prend une petite pause. On revient.